À contre-courant de nos revendications. Voilà le titre de mon message ce matin. À contre-courant de nos revendications. Aujourd'hui, 1er mai, fête du travail, fête des revendications par excellence. Cette fête, elle date de la fin du 19e siècle. Historiquement, cette fête, c'était une lutte, la lutte des travailleurs, la lutte pour les droits des travailleurs. Et l'une des revendications principales, c'était d'obtenir la journée de travail de 8 heures, et pas une de plus. Cette lutte de revendication concerne de nombreux pays. Elle a une valeur internationale. Et aujourd'hui, 1er mai, c'est vrai, dans certains pays, ils ont choisi une autre date, mais aujourd'hui, 1er mai, dans de nombreuses villes, les gens descendent dans la rue pour manifester, pour revendiquer, pour exprimer haut et fort tous les droits qu'on leur a bafoués et pour réclamer la liberté, pour réclamer un meilleur salaire, pour réclamer des meilleures conditions, etc., etc. Tout cela peut paraître légitime. Lorsque nos droits sont bafoués, est-ce que ce n'est pas normal de manifester? Lorsque notre liberté est atteinte, lorsqu'on nous a fait injustice, est-ce que ce n'est pas normal, est-ce que ce n'est pas légitime de revendiquer? Lorsque j'ai tellement besoin qu'on s'occupe de moi, lorsque mes besoins ne sont pas comblés, lorsque je souffre et que j'ai besoin d'être entourée, est-ce que ce n'est pas légitime que je le manifeste? Qu'est-ce que le Seigneur dit de tout ça? Qu'est-ce qu'il nous dit au travers de sa parole? Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie? Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie que la revendication? Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on est allé dans Genèse 3. Histoire de bien comprendre ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on a vécu au travers de tous les siècles. Tout vient de cette problématique, de ce drame qui s'est joué dans Genèse 3, dans le jardin d'Éden. Adam et Ève n'ont pas respecté l'autorité de Dieu. Ils n'ont pas cru en sa bonté, ils n'ont pas eu confiance. Ils ont voulu être autonomes. Ils ont voulu s'affranchir de Dieu pour répondre eux-mêmes pas vraiment à leurs besoins, mais à leurs désirs. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont comme ça désobéi? L'être humain s'est fracturé. L'être humain s'est fracturé de l'intérieur. Il s'est trouvé séparé de Dieu. Autonome, ou plutôt pseudo-autonome. Il se croit autonome, mais en même temps, il n'arrive pas à répondre lui-même à ses besoins. Il est fracturé, il se rend compte de sa finitude, il se rend compte de ses limitations. Il a une fracture à l'intérieur. Il ne peut pas répondre lui-même à ses besoins. Il est séparé de sa source. Il avait une source, tout lui venait de Dieu, et il n'en a plus voulu, il est séparé. Alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il a une hyper-conscience de lui-même. Nous sommes hyper conscients de nous-mêmes, chaque petit bobo, chaque petite chose, chaque petite difficulté. Parfois, c'est à un tel point qu'on va aller se peser tous les jours, on va aller prendre notre tension tous les jours. Tous les jours, on va contrôler si notre pouls, il bat régulièrement. Tous les jours, ou alors toutes les semaines, on va courir chez le médecin pour voir si tout va bien. Ou on va demander à quelqu'un, mais tu trouves que j'ai bonne mine, t'as pas l'impression que là, il y a un peu quelque chose? On a une telle conscience de nous-mêmes. Parce qu'on est séparé de notre source, on est égocentré. Et il y a encore une fracture qui, elle, est externe, une fracture avec nos semblables. C'est une des conséquences. Fracture entre hommes et femmes, fracture entre parents et enfants, entre employés et employeurs, entre riches et pauvres, entre nord-sud, etc., etc. La liste est longue. La vie sur terre, elle est difficile. Et à cause de toutes ces choses-là, on entre dans la revendication parce qu'on est bourré de frustration et de difficultés. Et on subit aussi des injustices qui sont vraiment des injustices. C'est vraiment pas juste. Il y a des situations, on vit des choses qui ne sont vraiment pas justes. Alors qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Aujourd'hui, c'est la fête du travail ou des travailleurs. Et dans Genèse 3, si je prends le milieu du verset 18, il est dit, 17, « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Même dans le cadre du travail. Dieu a dit toutes les conséquences qu'il y aurait au niveau de la chute, toutes ces fractures. Même dans le cadre du travail, il te produira des épines et des ronces. Qui est-ce qui n'a jamais exercé un travail trop pénible? Qui est-ce qui n'a jamais eu un travail mal payé? Qui est-ce qui n'a jamais eu des horaires impossibles? Qui a dû travailler loin de son domicile? Qui est-ce qui n'a jamais eu un collègue qui lui cherchait des poux? Qui est-ce qui a jamais eu une mauvaise ambiance d'équipe? Qui est-ce qui a dû subir des critiques à longueur de journée? Qui est-ce qui a dû se battre jour après jour pour ne pas entrer dans ces critiques, dans cet esprit du monde du travail? Ça, c'est un contexte. Mais il y en a plein d'autres. Et je vous ai parlé tout à l'heure aussi comment on est devenu centré sur nous-mêmes, notre santé. Par exemple, ou nos douleurs, ou nos souvenirs, ou notre passé, ou nos circonstances. Parfois même, on prend l'Église à partie. Parfois, on demande à l'Église de nous sauver. Parce qu'on n'arrive pas nous-mêmes. Alors on le demande aux membres du conseil, ou aux frères et sœurs, ou au groupe de maison, aux responsables du groupe de maison. Mais réponds à mes besoins, mais entoure-moi, mais occupe-toi de moi. Mais la source... La source, ce n'est pas le conseil, ce n'est pas les groupes de maison, ce n'est pas les frères et sœurs. Bien sûr, on est là les uns pour les autres, mais la source, c'est Dieu. Aucun être humain ne peut répondre aux besoins de l'autre. Souvenez-vous, la solution d'Adam et Ève, c'était des feuilles de figuier. Moi, je suis incapable de vous tricoter plus que des feuilles de figuier. Mais Dieu, lui, il a sacrifié des animaux pour revêtir Adam et Ève de vêtements de peau. Et aujourd'hui, si nous sommes là ce matin, c'est que tous nous avons un revêtement qui est issu d'un sacrifice. Ce n'est plus des vêtements de peau. Mais nous avons tous revêtu Christ. Nous avons tous le pardon de Jésus qui nous couvre et qui nous libère. Tous, si nous sommes là, c'est qu'à un moment donné, Dieu nous a appelés. Et nous avons répondu à cet appel. Il nous a donné la capacité de répondre. Et on est là aujourd'hui parce qu'on se présente devant lui. Autrement dit, nous ne sommes plus dans le camp des rebelles qui s'opposent à Dieu et qui veulent l'autonomie, mais nous sommes avec Dieu, nous sommes à Dieu, nous sommes conscients que tout nous vient de lui. Il y a donc une autre voie que celle des revendications. Et cette autre voie, ce n'est pas la plus facile, mais c'est la plus glorieuse. Cette voie, c'est celle du caractère de Jésus. On réfléchit un peu, ça se corse déjà. Je vous lis dans la deuxième épître de Pierre. Cette deuxième épître, cette deuxième lettre, elle ne fait que trois chapitres. Trois chapitres où il y a un mot-clé qui est là comme un fil rouge. Et ce mot-clé, c'est la connaissance. Depuis le début, dans les salutations, dans les bénédictions, du tout début de la lettre, dans le premier et le deuxième verset, déjà Pierre, il met déjà ce mot « connaissance », comme pour nous mettre la puce à l'oreille. Tiens, là il y a un mot, il y a une thématique qu'il va falloir suivre pendant toute la lettre. Et ensuite, cette connaissance, elle est développée au début de la lettre où Pierre, il explique toute son argumentation. Et cette argumentation, elle est développée dans le chapitre 2, dans le chapitre 3. Et la synthèse, à la fin du chapitre 3, il est encore question de connaissance. « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Il y a une thématique dans cette lettre que nous devons connaître Jésus-Christ. Et cette connaissance, elle touche à son caractère, elle touche à ses valeurs. Je vous lis à partir du verset 3. « Sa divine puissance, celle de Dieu et Jésus-Christ, Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par sa convoitise. Je vous ai lu deux versets. Deux versets. Si on commence à parler de ces deux versets, on pourrait écrire des livres. Il y a un condensé de vérité. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ? La divine puissance, c'est-à-dire la puissance de Dieu, nous a donné à chacun d'entre nous tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui est nécessaire à la vie, tout ce dont nous avons besoin. Notre source, c'est la divine puissance de Dieu. Tout ce qui est nécessaire pour cette vie présente ici, que ce soit des besoins matériels, émotionnels, relationnels, tout ce dont nous avons besoin pour une plénitude de vie sur la terre, nous l'avons reçu par la puissance de Dieu. Mais tout ce qui est nécessaire pour la vie éternelle, pour rencontrer notre Seigneur le jour où il reviendra. Parce que c'est de ça dont il est question dans cette lettre. C'est de se préparer pour le retour du Seigneur, de le connaître assez. Eh bien, tout cela, sa divine puissance nous l'a donné. Nous avons tout en Jésus-Christ. Mais il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est un mot qu'on n'utilise plus tellement, il paraît un peu vieillot. Ce mot, c'est l'attachement au Seigneur. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons attachés au Seigneur. Tout nous vient de lui, de sa divine puissance. Et comment être capable de saisir cette puissance en nous ? C'est quoi le mécanisme ? C'est quoi le moyen ? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Autrement dit, par la connaissance de celui qui nous a appelés, par le fait de connaître le Seigneur qui nous a appelés par sa gloire, tout ce qui fait qu'il est Dieu, et par sa vertu, c'est-à-dire par sa qualité morale ou par son caractère. Déjà là, il nous est question du caractère de Jésus, de ses qualités morales. Jésus, qui a des qualités morales irréprochables, nous a appelés. Et c'est en le connaissant que nous allons pouvoir recevoir sa divine puissance. Et cette divine puissance va faire que nous allons devenir participants de la nature divine. Vous accrochez les wagons ? Participants à la nature divine. Il ne nous est pas dit « vous allez devenir comme Dieu ». Il ne nous est pas dit « vous allez devenir des dieux ». Non, nous sommes des créatures. Mais nous pouvons participer, nous pouvons goûter à la nature de Dieu, nous pouvons l'expérimenter de l'intérieur. Il y a une partie de Dieu, il y a des choses de Dieu, il y a le caractère du Seigneur que nous pouvons expérimenter de l'intérieur. Et ça nous transforme, et ça nous fait participer à cette nature, et ça nous rapproche de lui, et ça nous rend toujours plus vivants, ça nous attache au Seigneur. Alors comment est-ce qu'on connaît le Seigneur ? Comment est-ce qu'on fait pour connaître notre Seigneur ? Comment est-ce qu'on fait pour être attaché à lui ? Eh bien, bien sûr, il y a la prière. La prière, c'est une relation, c'est une communication. La méditation de la parole. Bien sûr qu'il faut passer du temps dans cette parole, puisque c'est la parole vivante, Jésus est la parole vivante. C'est au travers d'elle que Dieu nous parle. Mais bien sûr, il y a aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend capable d'entrer dans cette parole et de la recevoir, que cette parole se fasse chair en nous. Le Saint-Esprit nous ouvre nos yeux spirituels, il nous donne des révélations, oui, bien sûr. Toutes ces choses-là, elles sont nécessaires. Il y a la prédication, c'est important d'aller entendre, écouter la prédication de la parole. La communion fraternelle, quand on se frotte les uns aux autres aussi. C'est comme ça qu'on apprend aussi à connaître le Seigneur. Mais il y a encore une chose, il y a encore une voie. Et c'est d'exercer, d'appliquer les valeurs du Seigneur, les vertus du Seigneur, le caractère du Seigneur, les qualités morales du Seigneur. Parce que si nous exerçons ces qualités morales, alors nous allons de l'intérieur vivre cette nature divine, la nature de Dieu. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu ou qualité morale, à la qualité morale la connaissance ou la science, à la science la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Cette qualité morale à la suite. À cause de tout ce qui précède, ajoutez à votre foi ces qualités morales. Nous ne sommes pas juste chrétiens. Nous ne sommes pas juste sauvés. Le Seigneur nous a appelés, pas juste pour nous dire « Eh bien, je ne vais pas en enfer, je vais dans la vie éternelle. » Ça, c'est drôlement réducteur. Le Seigneur nous a appelés pour nous remplir par sa divine puissance pour que nous puissions participer à sa nature. Avec le caractère de Christ. Et si on arrive à vivre ces choses-là, son caractère sera tellement imprégné en nous-mêmes que nous pourrons saisir qui il est, que nous le connaîtrons toujours mieux. Cette voie n'est pas facile. Cette voie est difficile. Cette voie, c'est un entraînement. Mais ça vaut la peine de se dire, mais moi, j'en suis où ? Ici, il y a cette valeur. Il y a cette qualité morale. Mais si vous allez dans Galates 5, 22, vous avez les 9 fruits de l'esprit. Et là aussi, vous avez la patience. Vous avez la douceur qui n'est pas là, par exemple. Vous avez aussi la maîtrise de soi. Vous avez aussi l'amour. Vous avez la paix. Et si vous regardez les enseignements de Jésus, si tu reçois un coup sur une joue, ben, tends l'autre. Pardonne. Combien de fois est-ce qu'il faut pardonner ? En fait, il n'y a pas de limite, jusqu'à ce que ce soit plus nécessaire. 7 fois, 77 fois, ou 77 fois, je ne sais plus combien. C'est quoi ce caractère de Jésus ? Comment l'appliquer ? Si on entre dans cette mentalité-là, on ne sera plus dans les revendications. On a changé de camp. Si on me fait une injustice, plutôt que de revendiquer la justice, je vais aller me dire, mais Seigneur, toi, comment tu as fait ? C'est l'histoire d'un jeune retraité qui a vécu une grosse injustice pour une question d'héritage. À un moment donné, dans sa famille, il y a eu un décès d'une personne qui était fortunée. Et cet héritage, il a été fractionné et il a été donné à une partie de la famille. Mais cette personne, ce jeune retraité, il a été mis à part. Pour des raisons que j'ignore, mais à un moment donné, il a été lésé. Il aurait pu, comme on dit, mettre du beurre dans les épinards pour sa retraite. Il aurait été aidé avec cette somme-là. Mais non, il n'a pas eu sa part. Il y a eu une injustice. Et ça, c'est quelque chose qui l'a rongé de l'intérieur. Ça a créé de l'amertume, ça a créé de la rancune et une douleur aussi. Cette douleur d'injustice en se disant « mais ma propre famille ne m'aime pas », ça a engendré beaucoup de choses. Et cette personne s'est éloignée de sa famille. Et petit à petit, il y a des problèmes qui ont commencé, des problèmes de santé, des problèmes matériels. Il y a eu plusieurs choses qui ont commencé à être difficiles dans sa vie. Et là, le réflexe, c'est de revendiquer. Mais faites-moi justice. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je porte plainte ? Et quand il en parlait autour de lui, certains de ses amis lui disaient « Mais oui, va, prends un avocat. » Et à un moment donné, il s'est tourné vers le Seigneur. Il a dit « Mets-toi dans une situation comme ça, qu'est-ce que tu ferais ?» Et en comprenant sa parole, il comprend qu'effectivement, il y a eu injustice. Mais le Seigneur est le seul juste, et il est mort pour des injustes. Et ce qu'il a compris, ce jeune retraité, c'est que ce qui lui pourrissait la vie, c'était pas cette somme d'argent qu'il n'a pas reçue, mais c'était l'amertume, c'était la rancune, c'était le non-pardon. Et il a fait tout un travail. Il a demandé de l'aide. Il a demandé de l'aide au Seigneur, il a demandé de l'aide à des frères et sœurs. Et il a pu confesser ces choses-là. Il a pu y renoncer devant Dieu en disant « Je pardonne. je suis lésé, j'ai mal, mais je pardonne. Et à partir de ce moment-là, des choses ont commencé à se débloquer dans sa vie. Les difficultés étaient encore là. Il y en a même des nouvelles qui se sont rajoutées. Mais il les a vécues complètement différemment, complètement libres, parce qu'il a expérimenté le caractère du Seigneur en lui-même, jusqu'au jour où le Seigneur a mis en place les circonstances et il a pu rencontrer sa famille. Et il leur a dit, « J'ai pas compris pourquoi vous m'avez lésé, mais pour tout ce qui est injuste dans ce que vous avez fait à mon égard, dans tout ce qui était manque d'amour, tout ce qui était injustice, tout ce qui était peut-être méchanceté, toutes ces choses-là qui ont même encore maintenant des répercussions, j'aimerais vous dire que je vous libère, que je vous pardonne, que pour moi c'est ok, vous n'avez plus rien à attendre de ma part, vous n'avez pas de crainte à avoir, moi je vous libère, vous pouvez vous sentir dégagé. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Chaque membre de sa famille était responsable de réagir avec ça, soit de dire merci, soit de rendre, soit d'être pas touché, peu importe. Mais lui, ce jeune retraité, ça l'a complètement dégagé. Tout à coup, à l'intérieur, il a expérimenté ce que c'est que de pardonner à quelqu'un qui n'est pas pardonnable, à quelqu'un qui n'a pas demandé pardon. Qu'est-ce que c'est que de libérer une personne ? Qu'est-ce que c'est que d'aller dans le processus jusqu'au bout de l'amour ? C'est un chemin difficile. Ce n'est pas du jour au lendemain où on arrive à pardonner. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, dans notre marche de tous les jours, c'est des choses que l'on peut faire. Quand on parle de faire miséricorde, c'est ça. Chacun d'entre nous en est concerné par ce genre de choses. Ce n'est pas forcément des pardons à demander. Pardon, parfois, c'est des problèmes d'impatience. On est impatient, on est irrité facilement. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça ? Comment est-ce que je fais pour me dire, j'ai besoin du caractère de Jésus en moi ? Parce que si ces choses-là changent, alors je vais l'expérimenter de l'intérieur. Je vais commencer à connaître Jésus parce que je vais vivre comme lui, parce que je vais manifester son caractère et je deviendrai un sujet de bénédiction, un sujet de restauration, parce que le caractère de Jésus agit en moi. C'est un peu ce qu'on a chanté ce matin pendant la louange. C'était des chants de consécration. C'était tous des chants en termes de « je ». Seigneur, viens me purifier, viens m'aider, viens me sauver, tu me relèves. Mais aussi, Seigneur, je veux te servir, je veux que ma vie te glorifie. Ça, c'est facile quand on est tous ensemble dans un temps de louange. Mais quand on est au travail puis qu'il y a des épines et des ronces, oulala, et parfois à la maison, il y a aussi des épines et des ronces. Puis des fois, sur la route, il y en a aussi. Et puis des fois. Le caractère de Jésus, un cœur qui veut se consacrer à lui, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, si nous mettons en pratique le caractère de Jésus, la maîtrise de soi, la patience, le pardon, l'amour qui va jusqu'au bout d'accepter l'injustice, parce que Jésus, lui, est allé jusqu'au bout, parce que c'est lui le juste juge, parce que c'est lui qui me fait justice, alors tant pis si je n'obtiens pas justice aujourd'hui sur cette terre, un jour, je l'aurai au ciel parce que je l'ai déjà acquise. Si je suis d'accord d'entrer dans ce processus, je ne descends plus dans la rue à coups de revendications. Ça ne m'empêchera pas d'aller voir mon employeur en lui disant, tu sais, j'ai l'impression que ça, c'est pas juste. Est-ce que tu serais d'accord de considérer ma demande ? C'est pas faux de faire ça. Mais avec quel cœur je fais les choses ? Quel est le cœur ? Qu'est-ce qui m'anime ? Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, ou aveuglé par sa myopie, selon vos traductions. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Chaque fois qu'on refuse de faire miséricorde à quelqu'un, on oublie que nous, en premier, nous avons bénéficié de la miséricorde de Dieu. Chaque fois qu'on est impatient envers quelqu'un, on oublie que Dieu est patient 24 heures sur 24 envers nous, et même encore plus, je crois. Chaque fois qu'on revendique, on oublie que tout est grâce. Et c'est tellement important. Je crois que c'est aussi une clé pour nous aider. Chaque fois qu'on est dans la difficulté d'entrer dans ce caractère du Seigneur et d'accepter de le vivre, de se dire, waouh, mais moi, d'où est-ce que je viens? Seigneur, combien de fois par jour tu dois me pardonner? Combien de fois est-ce que j'échoue, ne serait-ce que dans mes pensées? Il y a un professeur à la HET qui nous disait, mais en fait, je ne peux pas passer 5 minutes sans péché. Parce qu'il y a un commandement qui nous dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et est-ce que, sur une période de 5 minutes, est-ce que je suis capable, de tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées, de tout mon être, d'aimer Jésus, sans que mes pensées aillent à gauche et à droite? Est-ce que je suis capable de rester dans cet objectif et vraiment de l'aimer? C'est quasiment pas possible. Nous ne sommes pas capables de ne pas pécher, juste par une pensée qui va un peu à gauche ou un peu à droite. Et pourtant, le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur nous pardonne. Nous avons ce revêtement de pardon par le sacrifice de Jésus. Alors que nous puissions nous souvenir, mais d'où est-ce que je viens? Et chaque jour, comment est-ce que le Seigneur me purifie? Comment est-ce qu'il me pardonne malgré mon fichu caractère, malgré mes sautes d'humeur, malgré mes impatiences, malgré mes paroles maladroites qui sortent de ma bouche? Alors à cause de ça, moi, je fais tous mes efforts pour joindre à ma foi les qualités morales que le Seigneur m'a enseignées. Je ne veux pas oublier d'aller voir, Seigneur, comment toi tu faisais? Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, allez faire un petit tour sur le sermon sur la montagne, dans Matthieu. Allez voir Matthieu 5 à 7. Ça fait du bien. C'est difficile, mais ça fait du bien. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Affermissez cet appel, l'appel du Seigneur pour vivre une vie pleinement remplie de sa présence, une vie pleinement remplie de cette nature divine. Affermissez votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point, vous ne trébucherez point. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Un jour, le Seigneur va revenir. Il suffit d'ouvrir les yeux pour savoir que ce jour, il arrive vraiment de plus en plus vite. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est un sujet qu'on n'aime pas aborder dans l'Église, ou plutôt on n'aime pas qu'il soit abordé dans l'Église, parce que ça fait peur. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que ma famille est prête? Mais préparons-nous. Et ça commence par là. La parole de Dieu n'a pas changé. Le Seigneur n'a pas changé. Il ne change pas. Alors, soyons remplis des valeurs du royaume. Soyons remplis de la qualité morale du Seigneur. Exerçons-nous à être comme lui, à être remplis de cette divine puissance qui nous fait vivre la participation à la nature divine, que nous puissions expérimenter cette nature divine, être comme le Seigneur. Et être un sujet de bénédiction. Et plus nous le ferons, plus nous connaîtrons le Seigneur de l'intérieur. Et plus nous le connaîtrons, plus nous allons discerner sa voix, plus nous allons voir comment est-ce qu'il agit, plus nous serons puissants dans nos prières, dans nos intercessions, plus nous serons des conseillers efficaces, plus nous serons des soutiens efficaces pour nos frères et sœurs, parce que nous puisons à la source qui est notre Dieu. Et le jour où Jésus viendra, on s'y attendra parce qu'on l'attend tellement on le connaîtra, qu'on va de plus en plus aspirer à son retour. Et nous serons prêts. Alors que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide pour appliquer ce qu'il nous demande. Le Seigneur ne nous a jamais dit que le suivre serait facile. Mais ne pas le suivre, ce n'est pas plus facile non plus. C'est plus facile de revendiquer, c'est plus facile de faire sortir de notre bouche tout ce qu'il y a dans notre cœur. Ça ne nous rend pas plus heureux et ça ne fait pas avancer les choses. Et on n'obtient pas plus justice quand on agit de cette manière-là. L'objectif, ce n'est pas d'obtenir justice. Pour nous, c'est fait. L'objectif, c'est de vivre le caractère du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole ne change pas. Merci parce que tu nous as donné des clés. Et c'est vrai qu'il y a des clés qu'on n'a pas envie d'utiliser. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont difficiles à faire. Et c'est vrai que parfois nos situations, elles semblent nous dépasser complètement. Mais tu n'es pas dépassé. Parce que ta divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à notre attachement à toi. Alors je te demande par la puissance de ton Saint-Esprit de nous venir en aide. Je te demande de nous montrer à chacun d'entre nous sur quel chemin nous sommes. Je te demande de nous donner le discernement. Là où il y a des revendications, montre-nous. Montre-nous pour que nous puissions changer de voie, pour que nous puissions te suivre et aller dans ta propre voie. Je te demande de toucher notre caractère. Donne-nous la force de faire tous nos efforts pour appliquer tes valeurs, pour appliquer tes qualités morales. Là où nous manquons de patience, montre-nous comment exercer la patience. Là où nous manquons de maîtrise de nous-mêmes, montre-nous comment nous maîtriser. Apprends-nous à mettre un frein à notre langue. Apprends-nous à garder nos pensées fixées sur toi. Rappelle-nous d'où nous venons. Rends-nous reconnaissants pour toute la grâce que tu as déversée dans nos vies. Donne-nous tout ce dont nous avons besoin pour marcher dans cette voie de sainteté, dans cette voie qui nous fait expérimenter ton caractère et qui nous fait te connaître de l'intérieur. Seigneur, merci pour cette grâce d'être participant à ta nature, déjà ici et maintenant, sur cette terre, dans notre quotidien. Glorifie-toi dans nos vies, Seigneur, et viens-nous en aide par ton Saint-Esprit et par ta divine puissance. Amen. Amen.